les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Lequel des deux a-t-il vu l'autre en premier ? Cela dit, peut-être se sont-ils aperçus au même instant et ont-ils su immédiatement qu'ils allaient devenir amis pour la vie ? L'histoire ne le dit pas, mais l'histoire est riche de récits les mettant en scène l'un et l'autre. En tout cas, l'émission qui suit, En étrange pays, signée Gilles Lapouge et diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 février 2001, cette émission évoque longuement cette rencontre mystérieuse, celle entre l'homme et le cheval, ou entre le cheval et l'homme.
Oui, mystérieuse cette rencontre, cette belle rencontre entre le cheval et l'homme. Mystérieuse pour toutes sortes de raisons. D'abord, on ne sait pas quand elle s'est produite. On a une fourchette de dates, mais des dates très larges. On ne sait pas très bien où elle s'est produite non plus. On sait encore beaucoup moins comment elle s'est produite. Et puis, il y a un quatrième mystère, c'est que, a priori, cette rencontre était étrange. C'est-à-dire que le cheval et l'homme, peut-être, n'étaient pas faits automatiquement pour se rencontrer, pour s'aimer et pour être compagnons tout au long de l'histoire et sans doute tout au long de l'histoire de l'humanité. C'est autour de ces questions, de ces thèmes, de ces énigmes que nous allons parler aujourd'hui, et cela grâce à un livre qui est absolument formidable. C'est un livre qui est publié par Phébus. Justement, le titre de ce livre, c'est « Première rencontre » avec un sous-titre « Le cheval et l'homme ». Et il s'agit de 20 écrivains, journalistes ou même des gens qui ne sont pas forcément écrivains mais qui écrivent bien quand même, étant des ethnologues, des cavaliers, des toutes sortes de personnes, plus des journalistes, plus des écrivains qui, les uns sont aussi des cavaliers, les autres ne sont pas des cavaliers plus émérites que plus habile que d'autres. Voilà. Et chacun, donc, imagine un petit peu ce moment extraordinaire et complètement perdu, complètement inconnu, où ils se sont rencontrés, ils se sont peut-être défiés d'ailleurs, on ne sait pas, et peut-être aimés. Moi, personnellement, je trouve que cette rencontre, elle est d'autant plus belle qu'elle est ignorée. Et du reste, il faut bien dire qu'après la lecture de ce livre, elle reste toujours aussi ignorée, donc elle reste toujours aussi plus belle. Aussi belle, peut-être plus belle encore, puisqu'il y a des imaginations, des poésies qui se greffent autour de ça. Pour parler de cette rencontre, nous avons deux personnes qui ont participé à ce livre. L'une est Jean-Louis Gouraud. Jean-Louis Gouraud, qui, vous allez dire qui vous êtes exactement, mais je sais en tout cas que c'est vous qui avez plus ou moins organisé le livre, hein, qui avez choisi vos collaborateurs.
Oui, pour des raisons d'ailleurs peut-être inavouables, mais pour des raisons d'argent.
D'argent pour quelqu'un d'autre, hein.
Oui, pour quelqu'un d'autre.
Donc
oui.
C'est avouable.
Voilà, c'est avouable. Bon. Mais c'est en effet parce que je me préoccupe depuis quelques années de la restauration, la réhabilitation d'un lieu qui était menacé de la disparition, menacé par les bulldozers. Ce lieu se trouve en Russie et c'est un lieu spécialement émouvant pour ceux qui aiment le cheval ou qui s'y intéressent tout simplement. C'est un cimetière de chevaux, qui est un lieu unique au monde, une nécropole qui rassemble 120 sépultures de chevaux.
Mais de chevaux distingués, hein ?
Et de chevaux, en tout cas, si eux-mêmes n'étaient pas distingués, leurs utilisateurs, eux, l'étaient.
Ils veulent être aussi, eux, non ?
Oui, enfin, vous savez, il y a parfois les aristocrates aiment fréquenter des êtres moins nobles, mais en ce qui concerne le cimetière dont j'évoque l'existence, il regroupe 120 sépultures de chevaux ayant appartenu en effet aux membres de la famille impériale. Mais certains chevaux avaient des origines vulgaires, puisque, pour ne citer qu'un seul exemple, se trouve là enterré un petit cheval très modeste des confins de la Mandchourie, un cheval d'origine d'ailleurs probablement manchou, qui avait été amené de sa lointaine Sibérie jusqu'à Saint-Pétersbourg par un simple cosaque. Ce cosaque simplement avait offert ce cheval qui avait réussi à couvrir plus de 9000 km en moins de 200 jours, ce qui est un exploit prodigieux quand on connaît les chevaux. Enfin,
donc c'était quand même un champion.
C'était un cheval extraordinairement endurant, résistant, et il avait certainement un moral d'acier, parce que les chevaux n'aiment pas beaucoup le changement, et quand il faut changer chaque jour de lieu, d'étape, de logement, de nourriture, le cheval en général a tendance à stresser. Donc, mais celui-là avait donc un moral plus d'acier, il est arrivé avec son cavalier bien sûr. Moins de 200 jours plus tard à Saint-Pétersbourg, son cavalier, un certain Piechkov, a offert ce cheval au Tsarevitch, et lorsque ce cheval est mort quelques années plus tard de sa belle mort, de vieillesse, on l'a enterré sur place parce que c'était un cheval héros.
Belle histoire de toute façon, hein, magnifique. Et il y a aussi d'autres chevaux qui sont historiques, il y a par exemple le cheval sur lequel Alexandre Ier est entré à Paris.
Oui, qui est d'ailleurs probablement 1814. Un cheval français. Probablement,
un cheval français, oui. Car il faut préciser, je crois que ce cimetière et cette maison de retraite élégante pour vieux chevaux a été créé par le frère de Alexandre Ier.
Oui, et paradoxalement, donc c'était Nicolas Ier qui a succédé à son frère Alexandre, et Nicolas était certainement de tous les empereurs de Russie le plus terrible, le plus sévère. Pourtant, Dieu sait qu'il y en a eu d'autres, mais quand même, le plus sévère.
Il y avait de la concurrence.
Oui, mais quand même, le plus terrible d'entre eux reste indiscutablement Nicolas Ier, qui d'ailleurs est le seul à avoir eu le surnom du bastonneur. On l'a appelé Nicolas le bastonneur, alors que Pierre est resté le grand, Catherine la grande.
Ivan le terrible, quand même.
Certes, c'est vrai.
Bien.
Ce même Nicolas Ier, qui avait donc pour les hommes, pour les bipèdes, assez peu de tendresse, avait une faiblesse pour les animaux. Et il a pris le pouvoir, enfin, il a succédé à son frère dans les conditions difficiles que l'on connaît en décembre 1825. Et lorsque sa première décision, en janvier 1826, alors qu'il a eu à subir la révolte des décembristes, que l'armée grondait, que la moitié de l'aristocratie lui était hostile, eh bien, il lui a semblé que la décision la plus urgente à prendre était de créer une maison de retraite pour chevaux. Et il a fait, qui était une idée à l'époque extrêmement moderne, donc saugrenue, enfin, mais comme l'empereur avait montré à l'occasion de la répression des décembristes qu'il ne fallait pas trop discuter ses ordres, on a exécuté celui-là, on a construit cette très jolie petite maison de retraite dans un coin charmant du parc Alexandre de Tsarskoe Selo.
Alors, on va être obligé d'aller un peu plus vite, mais...
Au galop, donc.
Au galop, oui. Ça a été magnifique, ça a duré un certain temps, et puis, il est évident que, je pense, en 17, tout ça a été oublié complètement.
Tout ça a été oublié.
Et vous l'avez découverte, enfin, rencontrée en tout cas, il y a peu de temps, et dans un état absolument lamentable.
Oui, car malheureusement, ce site avait été, non pas, il faut le reconnaître, non pas massacré, pillé, les révolutionnaires ne s'étaient pas acharnés sur ce symbole impérial, simplement on l'avait abandonné. Puis le site, comme c'est plus récemment, comme on le sait, a été occupé par les nazis pendant l'occupation de Leningrad, et lorsque les Allemands donc se sont retirés, après avoir d'ailleurs fait sauter les plus beaux monuments d'architecture de Tsarskoe Selo, y compris le palais Catherine, c'est l'armée rouge qui a repris possession des lieux et a abandonné ce site à la direction des Beaux-Arts. La direction des Beaux-Arts s'est empressée d'entreprendre des travaux de restauration, c'était en effet le plus urgent, du palais Catherine, qui est un chef-d'œuvre immense qui avait été construit à la demande de la fille de Pierre le Grand pour éclipser Versailles. Et Rastrelli, qui est l'architecte, avait mis tout ce qu'il fallait, en effet, pour que... Versailles soit, si ce n'est éclipsé, du moins, supporte la comparaison. Bon. Et le lieu qui avait abrité ce cimetière a été utilisé à ce moment-là, et c'est grave, mais en même temps, on peut le comprendre, avait été utilisé au fond comme dépotoir. C'est-à-dire que la direction des Beaux-Arts ne s'était pas très bien rendu compte de l'intérêt si ce n'est artistique, du moins historique du lieu, et avait entreposé là des statues cassées, des tracteurs en panne, des planches, des tôles ondulées, enfin voilà, c'était devenu...
Jean-Louis Gouraud, alors donc, votre intervention et le sens de ce livre, de ce point de vue...
Le lien est que, une fois que mes interlocuteurs soviétiques, d'abord, russes ensuite, ont compris que ce lieu méritait en effet d'être restauré, réhabilité, soit visitable, s'est posé évidemment dans cette Russie nouvelle très vite le problème du financement. Mes interlocuteurs russes m'ont fait savoir qu'ils étaient disposés à entreprendre des travaux à condition qu'on leur en fournisse les moyens. Mais vous savez, c'est extrêmement difficile de solliciter une fois encore la charité des Occidentaux, qui est tellement sollicitée d'abord par le ministre des Finances, ensuite par toutes sortes de causes indispensable, urgente et noble.
Donc les droits de ce livre.
Donc il a fallu trouver d'autres moyens de financer ces travaux, et l'idée a été de solliciter deux grands écrivains, non pas pour leur demander de l'argent, mais pour leur demander une création, leur participation intellectuelle, d'où l'idée d'un livre, d'un ouvrage collectif réunissant de grands écrivains ou de grands cavaliers, de grands écrivains équitants ou de grands cavaliers écrivants, pour composer ce livre sur ce sujet, et vous le soulignez tout à l'heure, sur lequel on peut faire place à l'imagination.
Bien. Et nous avons un de ces grands cavaliers, je ne sais pas, grand écrivain, ça je le sais parce que je le connais, c'est André Velter, qui participe à ce livre. Hein. Vous avez écrit un texte qui est très très beau, c'est L'ange et le cheval, je crois.
Oui,
c'est
ça le titre. Le galop de l'ange.
Le galop de l'ange, oui. En tout cas, c'est ça. Alors, donc, grand écrivain, je sais que vous l'êtes, mais... vous êtes cavalier aussi ?
Oui, comme toute personne ayant vécu plusieurs années en Afghanistan, ça serait une totale indignité que de ne pas savoir monter à cheval ou de ne pas avoir le goût des chevaux.
Et c'est là-bas que vous avez appris ou bien
non,
vous
j'avais avez... non, je savais déjà un petit peu avant, mais la vie en Afghanistan permet des coquetteries que l'on ne peut pas se permettre ici. J'habitais Kaboul et j'avais 3 chevaux, ce qui évidemment n'est pas encore la possibilité au centre de Paris. Ça viendra, mais il faut encore pas mal d'évolution. La campagne électorale actuellement ne m'en donne pas, n'ouvre pas des perspectives suffisantes. Dans le deuxième arrondissement, je ne vois pas où je pourrais...
Il n'y a pas beaucoup ?
Non.
Oui, mais vous avez autour de Paris, vous avez quelques petits endroits.
Ah oui, oui,
bien sûr. Quand
mais
même.
On ne peut pas vivre avec. En Afghanistan, je sortais de chez moi à Kaboul à cheval.
Ah, vous allez à cheval.
Ce qui est quand même... ça a une autre allure, quoi.
Donc, vous avez eu envie d'écrire dans ce...
Oh
dans
non,
ce
non, livre. Non, j'ai simplement répondu à la demande.
Il n'y avait aucune envie.
Tout le monde n'a pas répondu.
Tout le monde
n'a
pas répondu,
mais... rapidement.
Mais les meilleurs ont répondu.
Michel Tournier... Non, Michel Tournier est un des meilleurs. Je crois qu'il n'a pas répondu.
Oui, oui.
Et,
hélas.
Pourtant, je connais un texte de Tournier sur le cheval.
Magnifique.
Qui est magnifique.
C'est un classique, c'est un chef-d'œuvre.
Ouais,
c'est un extrait du Roi des Aulnes,
ouais,
dans lequel il explique que le
cheval... Et aussi dans une chronique, hein. Dans une chronique, alors c'est
spécial, oui, il reprend le même thème.
Il avait découvert que le cheval était le seul avec l'homme qui a des fesses.
Exactement.
C'est curieux, hein,
absolument.
Comme
c'est un texte...
Non, c'est fondamental.
En fait, j'ai répondu à la sollicitation insistante de mon ami Jean-Louis Gouraud, et ce n'était d'ailleurs pas la première, car avant ce livre, pour commencer les travaux, nous avons déjà fait ensemble 2 spectacles sur la célébration du cheval avec des comédiens. Vous savez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les hommes qui aiment les chevaux sont un peu fous et toujours mobilisables. C'est-à-dire qu'il est très difficile qu'ils ne trouvent pas le temps, même quand ils sont débordés, que ce soit des comédiens, que ce soit des écrivains, que ce soit des chanteurs. Quand on leur demande en leur disant « c'est pour restaurer une nécropole équine », moi qui suis en plus tout à fait, avec mon attrait pour l'Orient, hostile à l'idée même de cimetière et qui ne jure que par la crémation et de la dispersion des cendres, il a bien fallu qu'il y ait des chevaux pour me faire écrire quoi que ce soit en faveur d'un cimetière. Il fallait que ce soit une nécropole équine, évidemment.
Mais c'est tout à fait exact que les gens qui aiment les chevaux sont des enthousiastes. D'ailleurs, l'un et l'autre, vous donnez prise à cet enthousiasme dans ce livre pour deux affirmations qui m'ont paru l'une et l'autre très belles, mais quand même très violentes. D'abord, à propos de Bartabas, il s'appelle comment il s'appelle votre...
Oui, Bartabas.
Bartabas. Alors, vous dites, toute catégorie, c'est le plus grand artiste de ce ce temps.
Oui.
Eh bien, là, je vous donnerai quelques explications tout à l'heure. Très facile. Parce que je ne le connais pas très bien. Attendez, je termine. Et quant à vous, alors, votre exagération, oui. C'est à propos de... C'est à propos d'André Velter, à propos d'une revue et qu'il dirige, qui s'appelle Caravane, et qui dit, sans conteste, la plus belle revue littéraire du monde. Mais... Alors, ça me paraît invraisemblable, parce que peut-être qu'au Paraguay, il y a une meilleure revue, vous la connaissez ?
Mais de la même manière.
C'est très audacieux.
Oui, oui.
Mais lui aussi, vous êtes pareil, hein, vous.
Ah non, moi, à propos de Bartabas, je vais vous expliquer en détail. Mais pour Caravane, il n'y a que Jean-Louis qui peut.
Mais ne sommes-nous pas dans la meilleure émission du monde?
Non, d'accord. Alors, si nos critères sont aussi scientifiques, je suis obligé de m'incliner.
Un mot, à propos de cette affirmation que je co-signe tout à fait. C'est-à-dire, je dis que je tiens Bartabas pour le plus grand créateur actuel. Toutes catégories artistiques confondues. Pourquoi ? Parce que, étant l'inventeur d'un genre nouveau, à partir du théâtre équestre Zingaro, il a, pour moi, réalisé ce que tout artiste doit rêver de réaliser. C'est-à-dire avoir les aspirations les plus hautes, inventer une esthétique nouvelle, et sans aucune barrière, tous les publics vont à Aubervilliers voir les spectacles de Bartabas et en ce moment, on s'écrase au sens strict, c'est-à-dire qu'il y a 110% de remplissage, les marches sont pleines tous les soirs pour un spectacle équestre autour de pièces de Stravinsky et de Boulez. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Ça veut dire 1100 personnes tous les soirs qui ont accès, et pour beaucoup d'entre eux qui n'ont jamais entendu le Sacre du Printemps, je ne parle même pas de la Symphonie de Psaume, et encore moins d'Ombre double de Boulez, et tous les soirs, ils sont absolument transfigurés par ce spectacle. Pour moi, c'est ça ce que doivent tenter tout artiste, quoi qu'il fasse. Alors, je pourrais vous citer d'autres artistes que j'aime énormément, mais qui n'ont pas cette chance d'avoir...
D'inventer un art.
D'inventer un art et d'avoir ce médium extraordinaire qu'est le cheval, qui permet effectivement à des gens qui n'ont aucune idée ou qui n'ont aucune recherche artistique particulière, de venir parce que cet animal fascine. C'est un médium fascinant.
Et si je peux rajouter une couche encore à celle que André vient d'étaler, je crois que Bartabas est pour beaucoup à ce changement de statut du cheval dans l'opinion des Occidentaux à laquelle on est en train d'assister. Il y a peu de temps, le cheval était un animal qui déclenchait plutôt l'hostilité, qui représentait l'aristocratie, la chevalerie, ou l'argent sale des courses, du turf, etc. Ce statut est en train de se modifier complètement. Le cheval, tout d'un coup, devient un animal, tout d'un coup, enfin, avec lenteur, mais un animal plus acceptable, un animal à nouveau aristocratique, littéraire. On assiste aussi à une création littéraire autour du cheval, tout à fait nouvelle. Je pense à Homéric, je pense à Jérôme Garcin. C'est un fait nouveau et je crois que Bartabas a joué un grand rôle dans cette transformation de l'image du cheval.
Bien, et il y a aussi des chanteurs qui chantent admirablement le cheval. Par exemple, celui-ci que nous allons entendre, Paco Ibáñez, à partir plutôt d'un texte de Alberti, Al Galopar.
Las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena, las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura.
galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Donc cette rencontre, nous allons essayer de la comprendre un petit peu mieux. Auparavant, il faut montrer et redire plutôt, et ça c'est l'un et l'autre, Jean-Louis Gouraud ou André Walter, combien elle était inattendue et peut-être pas prévue dans les plans du maître du monde, hein, je ne sais pas.
Je dirais même qu'elle était théoriquement impossible.
Voilà, alors assez rapidement, vous m'expliquez un peu.
On a affaire à deux êtres... Incompatible. L'un est un gibier, l'autre est un chasseur. D'ailleurs, la relation entre l'un et l'autre a été, pendant des millénaires, cette relation-là,
tendue.
L'un était le comestible de l'autre. C'était le cheval est un herbivore, l'homme est un carnivore, le cheval, sa survie, c'est la fuite, l'homme, sa survie, c'est au contraire l'attaque, l'agression, tout dans le comportement de l'un est absolument antinomique du comportement de l'autre.
Là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord. En revanche, il y a un point, mais moi je ne connais pas les chevaux comme André Walter, comme l'Afghanistan ou comme vous. Il y a un point qui m'a davantage étonné dans votre texte à ce sujet-là, pour montrer le dissemblable de ces deux créatures. Vous dites, l'homme est guerrier, violent, etc. Le cheval est timide et il n'est pas courageux. Hein, il est peureux.
Il est peureux. Et d'ailleurs,
et en même temps, il est quand même d'un courage prodigieux. Vous avez cité tout à l'heure ce petit cheval qui venait du fond du monde. Mais imaginez le cheval de... Moi, j'ai lu des textes de mémoire des gens du temps de Napoléon. Comment on apprenait au cheval à supporter ce choc épouvantable de la bataille, le bruit, le tonnerre. Et on les habituait à ça. Hein.
Buffon prétend même, dans son très beau texte, que le cheval prend plaisir à se trouver au milieu de la bataille, au son
des... Et des gens, des cavaliers d'aujourd'hui me disent, mais ils aiment la violence, et c'est là où ils sont le plus heureux. Peut-être pas la violence, ils ne mordent pas, c'est pas ça, mais la violence du galop, la violence de l'obstacle.
On dit que le cheval s'enivre de sa propre vitesse, le cheval est buveur de vin. On a fait autour, en effet, de tous ces comportements de chevaux, de la très belle littérature. Y compris chez Buffon, y compris chez ces auteurs que vous évoquez, qui aiment supposer que le cheval partage leur exaltation. Vous savez que La Salle, ce sabreur bien connu, riait aux éclats quand il chargeait au triple galop. Alors il supposait évidemment que le cheval lui-même était saisi de la même exaltation, du même bonheur de la vitesse.
Il ne chargeait pas au triple galop, hein.
En phase finale, on était au galop.
Non, jamais.
Le début d'une charge se faisait...
C'était très lent, une charge, contrairement à ce qu'on imagine. Du temps de Napoléon, en tout cas, hein,
oui,
certainement.
Dans un premier temps, parce qu'il y avait de très longues distances à couvrir. On ne peut pas, en effet, ce n'est pas comme
dans les westerns, ce n'est pas comme au cinéma. Qu'il ne pouvait pas courir non plus.
On ne peut pas tenir le galop très longtemps.
Enfin, de toute façon, en tout cas, on les plongeait dans cet enfer... Et il ne fuyait pas, sans doute était-il bien formé aussi. Hein.
Oui, en ce qui concerne en tout cas l'éventuelle exaltation, plaisir, bonheur que le cheval pourrait ressentir au milieu des combats, je crois que ça relève plus de l'imagination, de la projection de sentiments humains qu'on attribue aux chevaux. Peu de chevaux se sont exprimés à ce sujet. Ce qu'on peut noter par contre, c'est que des chevaux prennent du plaisir... En corrida, par exemple, ou bien dans le travail que les cow-boys mènent pour trier les bovins. On voit bien que le cheval y prend goût, s'amuse, mais ça relève plus davantage du jeu à ce moment-là que de l'agression, du combat. Mais chez Homère aussi, on voit des chevaux qui participent avec plaisir au combat. Mais encore là encore, ça relève de la littérature. Ce qu'on peut constater dans la nature, dans le comportement du cheval, dans une observation, disons, éthologique du problème, c'est que le cheval, en effet, est un animal peureux. Dès qu'il entend un bruit, aperçoit une ombre, il a les pires soupçons sur les raisons de ce bruit ou la présence de cette ombre. Et en effet, sa survie, la loi de l'espèce, son devoir de cheval pour survivre, c'est en effet de s'enfuir. C'est un animal taillé pour, juste construit, bâti pour pouvoir s'enfuir, courir vite et longtemps.
Vous venez de citer Homère, là, il y a dans Homère, effectivement, un moment où on voit que le cheval est extraordinairement sensible, puisqu'il pleure.
Quand, hein, devant la dépouille de Patroc,
oui. Des larmes chaudes coulaient de leurs yeux et tombaient sur le sol poussiéreux, les animaux pleuraient. Patrocle, qui les avait si souvent conduits, voyant leur peine, Zeus leur dit « Non, je vous promets qu'Hector ne vous conduira jamais. Prenez courage et n'ayez crainte de traverser le champ et de ramener le loyal écuyer Automédon en sécurité au camp pour qu'il repose. » C'est superbe, hein ?
Ouais.
Et d'ailleurs, dans le même Homère, je crois, c'est également dans l'Iliade, il me semble que la mort d'Achille est prévue par son cheval, hein ? Il y a une espèce de prophétisme du cheval aussi.
C'est
passionnant parce que c'est Homère, c'est quand même vieux de 1000 ans, enfin de 600 ans avant notre ère, et il savait déjà toutes ces choses-là. C'est magnifique. Bien, alors je reviens un petit peu à notre sujet, à notre rencontre. Sur cette rencontre même, du point de vue, comment dirais-je, scientifique, connaissance positive, on ne sait vraiment rien.
Rien, non. Comme vous le soulignez en introduction, on ne sait même pas où ça s'est passé, probablement dans les immensités eurasiatiques, mais très difficile d'être plus précis. À quelle époque, l'archéologie ne nous permet pas de répondre, mais en tout cas, disons, à moins 3000, moins 4000, moins 5000. Mais voyez, donc l'éventail est assez large.
La seule chose qu'on sache,
c'est que le cheval, de tous les animaux domestiques, est le dernier à avoir été domestiqué bien plus tardivement que le bœuf, que le chien, que la chèvre. C'est la dernière conquête, et la plus noble évidemment, de l'homme.
Alors, il y a un article très récent à la suite, parce qu'on cherche cela, hein, à localiser, grâce à l'ADN, là aussi l'ADN est... ce qu'ils ont découvert, mais alors c'est pas par l'ADN, ça c'est par des fouilles à Derivka, dans le sud de l'Ukraine. Sur un site de fouilles qui est vieux de plus de 6000 ans, on a trouvé des prémolaires de chevaux qui présenteraient une usure caractéristique provoquée par un mort. Ça vous paraît légitime, cette hypothèse ?
Oui. D'ailleurs, ce qui a permis... alors, comment ça s'est passé, on n'en sait rien, mais en tout cas, ce que l'on peut établir, dire ou sans nécessairement l'affirmer, mais c'est que c'est certainement l'idée, la découverte du fait qu'un instrument dans la bouche d'un cheval permettait de le contrôler. C'est l'invention du frein, le fameux mort, qui a sans doute tout, qui a tout changé. C'est à ce moment-là, mais... ça c'est un fait probable, mais la manière dont ça s'est passé, alors, et surtout par quel effort prodigieux d'imagination, par une inventivité inouïe, comment a-t-on, un homme a-t-il eu un jour l'idée de mettre justement un frein là, à cet endroit, dans
et
la bouche du cheval?
Pourquoi dites-vous un homme? Est-ce qu'il n'est pas légitime d'imaginer
une femme,
que...
Oui, bien sûr. Oui.
Non, femme évidemment, non, mais que plusieurs hommes ou plusieurs femmes, c'est-à-dire que ça soit produit en beaucoup, beaucoup de lieux...
Simultanément, c'est bien possible. Oui.
Simultanément,
c'est bien possible. Mais justement, on n'en sait rien et donc... on peut imaginer ce qu'on veut et on peut donner libre cours à justement l'imagination de tous ces écrivains qui, comme vous l'avez constaté, ont tous inventé une version différente.
À chacun a sa manière de voir. Oui. Il y en a un, c'est un général, comment vous l'appelez, Durand, non ?
Durand, il y a un très célèbre général qui a dirigé très longtemps, oui, bien sûr, il a été l'écuyer en chef du cadre noir de Saumur.
Qui est une idée de général, d'ailleurs, probablement. c'était des gens qui faisaient des grands pièges pour attraper des cerfs, des cervidés, des dindes, tout ça, et puis un matin, il va ramasser son cerf, et il y a un cheval là-dedans. Alors il essaye de le tirer, je ne sais pas, il se débrouille mal, c'était un mauvais soldat, et il tombe à califourchon sur le cheval. Et le cheval part comme un fou. C'est rigolo,
c'est
non ?
C'est une hypothèse, oui. Mais l'avantage de cette hypothèse-là, c'est qu'elle a été inventée par un cavalier, qui donc n'a pas une connaissance livresque de l'animal, mais... Ouais. On dit souvent que les cavaliers pensent avec leurs fesses, je n'en dirais pas tant du général Durand, qui pense aussi avec sa tête, mais enfin, le fait d'avoir été cavalier, et dans son cas éminent cavalier, aide, je crois, à imaginer la manière dont cette toute première fois s'est produite.
Il y a d'autres imaginations hein, aussi. Il y a d'autres hypothèses.
Ah, innombrables, une par écrivain. Alors certains ces écrivains ont un peu triché, ayant tendance peut-être à remplacer l'hypothèse historique par une hypothèse plus personnelle en ce qui concerne leur première rencontre. J'ai en tête par exemple le texte de Laurent Després qui raconte, à juste titre d'ailleurs, que la toute première fois, c'est toujours la toute première fois, que le premier cavalier de l'histoire, c'est soi-même.
Vrai, c'est vrai.
Et il raconte sa première expérience, qui d'ailleurs, un peu comme celle du général Durand, n'était pas sur un cheval, mais sur une vache.
Sur un veau, hein.
Voilà, donc...
Et c'est un gosse, enfin
un enfant. Un jeune, oui. Oui. D'ailleurs, c'est une hypothèse assez souvent retenue par les poètes. On se dit que l'idée était si folle de monter sur cet animal fougueux, imprévisible, fuyant, etc. Ça ne pouvait être qu'une idée d'enfant. Il fallait l'intrépidité et l'inconscience d'un enfant pour s'y essayer.
En tout cas, la plupart des hypothèses, la plupart de ces textes se réfèrent, il me semble, plutôt, et la science semblerait vaguement le confirmer, plutôt des zones eurasiennes, hein, des zones lointaines. Et nous allons entendre un texte, une épopée, qui est une épopée kalmouk. Vous connaissez, hein, je crois, cette...
Oui, c'est un personnage extraordinaire, Okna Zan Tsagan, qui a la particularité de chanter en diphonie, c'est-à-dire qu'à la fois, il donne le texte et il fait l'accompagnement, et avec la même bouche.
Ah, oui.
C'est-à-dire les cordes vocales sont dissociées, l'une dit le texte et l'autre donne cette sonorité presque de guimbarde dans la bouche.
Je ne sais pas du tout ce chanteur, mais il est clair, maintenant que je l'ai écouté, que c'est le plus grand musicien du monde.
Non, mais...
C'est évident. Bien, alors, maintenant, nous allons passer...
Merci de le reconnaître.
À un des écrivains parmi les plus grands, qui est André Velter. Votre texte, donc, il s'agit d'un ange.
Mais oui, parce qu'on parlait tout à l'heure d'une première rencontre qui aurait été le fait d'un enfant et d'un cheval. Pour écrire ce texte, j'ai voulu, au fond, me faire plaisir et bien sûr le situer dans un endroit qui n'est pas nommé dans le texte, mais qui est à l'évidence la Haute-Asie. Pour moi, je pense en effet que c'est dans cette gigantesque pénéplaine, confins de désert, qu'a dû se produire cette rencontre. On sait que les empereurs de Chine envoyaient des expéditions du côté du Fergana pour capturer certains étalons rares dont ils avaient besoin pour la reproduction chez eux. Et j'ai toujours pensé que dans ces immensités, les chevaux étaient à l'aise. Et comme on m'avait demandé une première rencontre, j'ai voulu aller aux origines et imaginer ces endroits peuplés non pas d'humains normaux, mais de dieux, puisqu'après tout, il n'y a guère que dans notre imagination que les dieux existent. Alors je me suis dit que c'était pas mal de les amener au moins une fois sur Terre. Et comment faire avec ces deux personnages dont on ne sait pas trop quoi faire dans la création, qui sont d'un côté le cheval et l'ange. L'ange aussi est un personnage étrange, et j'ai voulu qu'au moins ces deux, non pas suicidés, mais ces deux galopeurs ou ces deux envolés de la société se rencontrent. Alors, c'est pas très difficile d'imaginer comment, quand on ne veut pas penser avec ses fesses, comme disait tout à l'heure Jean-Louis Gouraud, comment on peut essayer de chevaucher un cheval sans pratiquement le toucher. Et il m'a semblé que pour la première fois, c'était la chose la plus facile. C'est-à-dire, quel était l'être qui était capable de chevaucher un cheval sans le toucher d'abord, puis lui montant sur le dos. Il y a une sorte d'approche comme ça, assez douce. Et puis évidemment, il y a toujours cette image de Pégase. Comment faire pour mettre des ailes à un cheval, sinon en lui mettant un ange sur le dos.
C'est très très beau, c'est un très très beau texte. Un texte pas très long d'ailleurs, hein, mais tout à fait admirable. Et par coïncidence, aujourd'hui, enfin ces jours-ci, paraissent deux livres de vous, hein, André Velter, deux livres de poèmes, chez Gallimard l'un et l'autre. Un, je pense que c'est une reprise d'un...
Oui, un livre qui s'appelle L'Arbre Seul, qui avait été publié dans une autre collection qui l'a été en poche, et qui, comme par hasard, se passe lui aussi à peu près dans la même région, c'est-à-dire beaucoup, plus de la moitié du livre se passe dans la région du désert du Taklamakan.
Vous avez un moment à nous faire entendre ?
Ben, si vous voulez, il y a un seul poème qui fait allusion à un cheval, qui est un cheval assez célèbre, c'est un cheval de bronze, qu'on connaît sous le titre « Le cheval du Gansu », qui a été retrouvé dans une tombe d'un général Han. Et il menait donc une armée morte qui devait veiller sur le défunt. Et je trouve ce cheval presque ailé lui-même sans aile, puisqu'il repose sur un seul sabot.
Il est cheval tout... volant.
C'était comme une sorte de cheval volant. J'ai écrit un petit texte. De son galop de bronze, il mène une armée morte. Il est venu au jour, lui qui gardait sous terre la passion d'un squelette pour les chevaux de sang. Plein de fougue et comme ivre, il sort de l'au-delà, clamant de tous ses muscles qu'il n'est plus de repos éternel, que l'éternité passe quand on passe la mesure, quand on donne forme fixe au bond des courses folles. Naseaux, crinières, sabots, poitrail, la liberté respire à fleur de peau toute la sueur du vent. Désert, ô vacillement d'espace, pour le secret emporté d'une statue de Wu Wei, pour le cri de joie brute jeté dans un puits d'ombre et qui brûle, le proche et le lointain, et le temps et ses lois.
Nous étions exactement donc dans l'émission. Dans l'émission qui va continuer un petit peu à feuilleter ce livre, et il y a un texte que j'ai trouvé particulièrement beau, c'est celui de Dominique Fernandez, qui est un grand écrivain, nous le savions déjà auparavant, dont je ne savais pas qu'il avait un grand amour des chevaux. Il fait partie des vrais cavaliers aussi, lui.
Dominique Fernandez est venu à ce livre par son amour pour Saint-Pétersbourg.
C'est ça.
Et c'est parce que ce cimetière se trouve dans cette zone qu'il connaît bien, dans ce centre qui est un de ses principaux centres d'intérêt.
Et alors lui, il a rêvé une autre rencontre. Il a rêvé la rencontre des Indiens avec les chevaux, alors que les chevaux étaient en Amérique jadis. C'est-à-dire que quand l'Europe a découvert l'Amérique, il n'y avait plus de chevaux.
Oui, le cheval est né en Amérique, mais il était à l'époque où il peuplait les immensités américaines, il était grand comme un chien, c'était Eohippus, il avait plusieurs doigts, et à la suite d'événements climatiques qu'on connaît mal, il a fui ces immensités pour...
Et donc, quand on le lui rapporte au XVIe siècle, il avait beaucoup grandi.
Il était devenu Écus, probablement d'ailleurs dans ces immensités eurasiatiques. Ouais. Et c'est vrai que l'Amérique a été repeuplée en chevaux très récemment par Christophe Colomb, par les Cortés et par
Fernandez, les conquistadors. Ça se passe au Mexique,
bien sûr, les origines mexicaines de Fernandez.
C'est un Indien qui parle et qui dit l'espèce de bouleversement, de coup de tonnerre qu'a été l'apparition de ces êtres.
Cet animal prodigieux.
Des dragons. Il croit d'ailleurs au début que ce ne sont pas des humains, que ce ne sont pas des êtres vivants, hein, que ce sont une espèce de statues, d'idoles.
Une machine secrète.
Voici un petit moment. Le loup et le chacal aiment autant ramper que bondir. Le jaguar lui-même se tapit avant de sauter sur sa proie. Les bêtes qui accouraient sur les Indiens n'avaient rien que de noble et de magnifique. Toute expression sournoise était bannie. Ça, vous devez être content hein, quand vous lisez ça. Toute expression sournoise était bannie de leur physionomie. Leur manière de jeter la tête de côté et d'autre et de souffler par les naseaux m'émerveilla. J'ai désigné sous le nom de bête ces apparitions volantes parce que, depuis, nous avons appris à les connaître et découvert qu'elles étaient faites d'os et de chair. Mais la première fois, comment ne pas les prendre pour des extraterrestres ? C'est un texte qui est très long, qui est beaucoup plus long, hein, celui de Dominique Fernandez, et qui est tout à fait passionnant parce qu'il nous fait partager l'espèce d'attente, d'angoisse de gens qui voient arriver ces individus.
Pour la toute première fois.
Oui, et le texte est d'autant plus fascinant que cet Indien est quasiment traître à la cause des siens, par amour pour le cheval, puisqu'il va quand même se mettre plus ou moins au service d'une machine de guerre. Parce que dans un premier temps, les conquistadors se servent des chevaux pour effrayer les Indiens. Et lui, il est fasciné par cette créature. Et c'est ce qui crée... La nouvelle est effectivement assez longue, c'est une vraie nouvelle, et c'est vraiment un très très beau texte.
À propos de... Vous parliez tout à l'heure d'étymologie, enfin on a fait quelques allusions au langage, il y a une chose qui m'a toujours épaté, c'est le mot cavalier et le mot chevalier. Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce qu'au fond, cavalier, c'est plus ordinaire que chevalier. Or, ça vient de caval, qui est très noble. Et chevalier, c'est très aristocratique. Et ça vient de cheval, qui est plus ordinaire.
Oui, oui. Pour ajouter aux énigmes, il est extrêmement difficile, par exemple, de distinguer les moments où il faut utiliser le mot équestre et le moment où il faut utiliser le mot hippique. Est-ce que l'art équestre désigne généralement l'art de monter à cheval, mais une activité hippique est-ce que l'art équestre est une activité hippique? Il y a un troisième mot qui encombre encore, qui complique le problème, c'est le mot chevalin. De nos jours, il y a une connotation, oui, c'est ça, ou bien un sourire chevalin, c'est-à-dire il n'est pas très très beau, enfin celui de Fernandel est bien connu en particulier, ou alors la boucherie est chevaline, donc il y a une connotation un peu vulgaire ou désagréable ou brutale dans le mot chevalin. Je suis incapable, évidemment, de répondre à votre question. J'ignore les causes de ces...
Oui, il y a un entrecroisement là de sens, c'est assez étrange.
D'ailleurs, le problème se pose, par exemple, en ce qui concerne la peinture, puisque le cheval, comme vous le savez, est non seulement un objet de littérature, mais également un objet de peinture, de sculpture, c'est un des animaux qui a le plus inspiré les artistes. Face à cette masse d'œuvres artistiques dont le cheval est le thème principal, de quoi faut-il parler? Est-ce qu'on ne peut pas parler d'art équestre, puisque l'art équestre, c'est l'art de monter à cheval. Il y a un art animalier, mais comment désigner cet ensemble de peintures, de sculptures qui représentent le cheval? Il n'y a pas de réponse à cette question.
Oui, il y a aussi alors tout un autre aspect, un autre chapitre de cette rencontre et de la poursuite de cette rencontre, surtout entre les hommes et les chevaux, qui n'est pas du tout idyllique. Là, c'est quand même la violence de l'homme vis-à-vis du cheval. Oui. Il y a un texte de Nourricier qui est assez impressionnant.
Oui, enfin, oui, c'est vrai que... Qui conclut le livre, d'ailleurs.
Qui conclut le livre, c'est d'une brutalité, l'homme... Enfin, peut-être moins aujourd'hui, hein, je pense, pour des raisons que vous indiquez d'ailleurs dans vos textes les uns les autres. Mais ça a été longtemps d'une terrible cruauté.
Ouais, je crois que François Nourricier a raison. La toute première rencontre n'a probablement pas été un mariage d'amour, ni une approche de tendresse. Enfin, on peut faire cette hypothèse, elle est très belle. C'est celle que fait Bartabas, d'ailleurs, dans son très joli petit texte qui, lui, ouvre le livre. Mais dans le texte qui
est très, très bref, hein.
Qui est très bref, ouais. Oui, qui mériterait d'être lu d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'il est, oui, c'est ça, il est si court que on peut vraiment le donner. Après s'être longtemps observé à distance, ils se retrouvèrent un matin face à face. Ce fut le cheval qui fit le premier pas.
C'est très très beau ça. Hein.
C'est très beau.
Et c'est je reconnais que c'est un des plus grands poètes.
Il ne nous lâchera pas.
Bien, alors, il y a aussi autre chose. Il y a d'autres hypothèses. L'hypothèse, nous l'avons dite, d'un enfant, hein, d'un jeune. Mais il y a une hypothèse, je ne sais pas qui... Je crois que c'est la dame qui... Non, ce n'est pas la dame qui en parle de l'hypothèse selon laquelle... Parce que qui est cette dame-là? Il y a une seule dame. Madame Matignon.
Karine Lou Matignon est une... Et sans doute... la meilleure spécialiste du monde de la relation entre les hommes et les animaux. Elle est l'auteur d'ouvrages très remarquables sur cette question, et l'un d'eux a un très joli titre, c'est le plus récent, chez Albin Michel, il s'intitule « Sans les animaux, le monde ne serait pas humain ». Et je partage d'ailleurs cette idée. Et vous vouliez donc évoquer sa nouvelle.
Non, c'est pas évoquer sa nouvelle. Je voulais au passage savoir qui était cette dame, c'est tout. Mais non, je voulais évoquer un autre aspect qui est dans le livre. Je ne sais pas si elle en parle aussi, mais il y a un monsieur qui en parle beaucoup. C'est le côté un petit peu érotique, probablement, de la rencontre.
Ah oui, ah oui.
Et aussi de l'après-rencontre.
Enfin, ah oui. Ah voilà, monsieur... j'ai compris le lien. Donc en effet, puisque vous évoquiez la féminité de Karine Lou Matignon, en effet...
Alors, c'est monsieur Digard, hein.
Voilà. Mais alors, en effet, Jean-Pierre Digard, en ce qui le concerne, trouve une grande féminité au cheval, mais je comme vous le savez, il n'est pas le premier, il n'est pas le seul, et le premier, je crois, à l'avoir souligné dans ce siècle, c'est Michel Tournier, qui fait remarquer dans un passage inoubliable du Roi des Aulnes que le cheval est un animal entièrement construit autour de sa croupe et que c'est le seul mammifère, avec l'homme, à avoir précisément des fesses. Et nombreux sont les poètes avant lui, les écrivains après lui, à avoir insisté sur cette féminité du cheval. C'est aussi le seul animal à avoir une crinière. On parle d'ailleurs, les Garcia Lorca, Apollinaire et même Paul Claudel ont souvent fait cette comparaison physique entre... D'autres d'ailleurs ont prolongé ces comparaisons au-delà des aspects physiques, mais également sur le tempérament, l'imprévisibilité, l'émotivité de cet animal qui le rend par certains aspects féminin. Et en tant que tel, évidemment, il peut déclencher le désir masculin. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que on peut inverser les rapports, c'est-à-dire que s'il faut en croire là encore la littérature, cet animal, à l'inverse, peut paraître pour un symbole viril, un synonyme de fougue amoureuse, et déclencher chez les dames des émotions amoureuses, précisément. Et c'est ce qu'évoque très brillamment Jean-Pierre Digard dans sa nouvelle.
Nous allons en dire un mot. Auparavant, nous entendons un chanteur contemporain, Le Forestier, Les Chevaux Rebelles. Et c'est un texte, c'est un texte de Jean-François Degnaud.
Trois choses que je crains, trois choses, le feu qui n'a pas d'amis, la source tarie, celui qui me connaît et détourne les yeux. Trois choses que je crains, une que je redoute, les chevaux rebelles, les chevaux rebelles, les chevaux rebelles qui refusent la bride et le mât. Trois choses que je respecte, trois choses, la mer qu'on appelle libre, le vent que n'arrête aucun mur, celui qui me connaît et qui meurt sans rien dire. Trois choses que je respecte, une que j'admire, les chevaux rebelles, les chevaux rebelles, les chevaux rebelles qui refusent la bride et le mât.
Oui, Jean-Pierre Digard ne se borne pas donc à évoquer la féminité du cheval. Il évoque, c'est ce que vous venez de dire, la relation presque amoureuse d'une femme et d'un cheval. C'est une femme encore dans ces endroits un peu mythiques, un peu historiques, je ne sais pas, une certaine Melda. Agrippée des deux mains à la crinière, elle est sur un étalon. Elle sentait contre son ventre les muscles puissants de l'épaule et du flanc du cheval se tendre et se détendre selon un rythme régulier que rien ne semblait pouvoir interrompre ni même altérer. Cette régularité exerça sur elle un effet apaisant. Cherchant à soulager ses bras endoloris par l'effort, Melda écarta les jambes pour s'arrimer avec ses mollets et ses talons au corps de l'animal. Au fur et à mesure qu'elle assurait sa prise, que l'arrière du garrot trouvait sa place entre ses cuisses ouvertes, des sensations nouvelles l'envahissaient. Peu à peu, je vais m'arrêter parce que sinon, je ne sais pas où nous arriverons. Dans votre anthologie, sans doute, ouais. Votre proche anthologie. Alors, il y a ça. Il y a aussi un autre texte que je trouve très beau. Et là encore, alors, on va retourner vers le versant lugubre, parfois, de la relation entre l'homme, de la rencontre entre l'homme et le cheval. C'est ce monsieur qui a écrit « Souvenir de Djebel », c'est un monsieur qui parle, comment s'appelle, Pascal Comer, hein, Pascal Comer, qui parle de l'embarquement des chevaux pour les abattoirs, Et il a dû assister à ça, je pense.
Oui, oui. Pascal Comer,
très petit.
Pascal Comer s'est rendu célèbre dans le monde littéraire chevalin, équin, hippique, par un livre publié chez De Noël il y a de nombreuses années qui s'appelle Chevaux. Pascal Comer est, comme Homéric d'ailleurs, un ancien jockey. Passé pour des raisons de poids, passé à la littérature.
Mais il écrit un autre livre qui s'appelle Le Grand Tournant, voilà. Qui était publié autant qu'il fait, si je me souviens bien. Et, mais il a une particularité, il aime aussi les vaches, alors évidemment, c'est bizarre.
Nul n'est parfait.
Ça vous plaît pas, hein, quand même.
Ah si, si, si,
vous,
oh, vous savez,
fait une grimace.
Mon amour de l'Inde fait que l'Inde a fini par me faire aimer les vaches.
Bien sûr.
Mais il évoque effectivement ces scènes d'abattage. Il y a à Paris d'ailleurs un lieu qui
est Vaugirard.
Oui, qui est Vaugirard. À mon avis d'ailleurs.
Moi j'ai habité là et j'ai déménagé à cause de ça.
Voilà. Et je trouve que la ville de Paris d'ailleurs ne rend pas suffisamment hommage, n'a pas mis suffisamment en relief ce lieu dont presque plus rien ne survit, si ce n'est les halles sous lesquelles se tient chaque samedi dimanche un marché du livre ancien. Mais s'il faut réintroduire un jour le cheval dans Paris, puisque, comme vous le savez, la législation actuelle interdit la circulation des fiacres, des chevaux, etc., c'est par Vaugirard, à mon avis, qu'il faudra commencer.
Mais le texte de Comer est très terrible, mais il se termine admirablement parce qu'il parle de relations amoureuses, alors dans un autre sens que celui que nous disions tout à l'heure, entre l'homme et le cheval. Avec les chevaux, dit-il, c'est la fin de son texte. Un texte qui a pour titre Souvenir de Djebel. Djebel étant un cheval, un petit. Ils appellent ça les arbis, hein, c'est des chevaux arabes, je pense. Oui. Avec les chevaux, il faut toucher, toujours toucher, toucher. Il faut être un peu cheval soi-même, ne faire qu'un avec eux. Et cela depuis des milliers d'années, depuis Solutré, depuis que l'homme marche derrière les chevaux, doucement, doucement. Je passe mes mains autour de l'encolure, près du garrot, la tête de Djebel posée sur mon épaule. Qu'est-ce que je saurais dire? Est-ce que je saurais dire qu'il est le plus beau? J'entends un ronflement très loin dans sa gorge. On ne peut monter un cheval sans qu'il se sente élu. Djebel est beau. Je l'ai choisi. J'approche mes lèvres de son oreille, murmure quelques mots. À vrai dire, je répète ce que le marchand a prononcé tout à l'heure à la barrière, les seuls qui m'importent pour l'instant. Petit, si tu peux le monter, il est à toi. C'est très beau, hein, comme rencontre. Mais à ce propos-là, il y avait aussi une espèce de tradition, et peut-être est-ce un mythe, peut-être est-ce une rumeur, je ne sais pas, selon quoi les chevaux, jadis en tout cas, par les maîtres de manège, par les militaires de Saumur, étaient très brutalisés. Et est-ce que vous pensez que ça a été vrai? Est-ce que vous pensez que ça reste aussi vrai qu'avant ou pas? Moi, parfois, je vois des manèges, parce que, avec mes enfants, etc. Alors, parfois, c'est merveilleux. On a l'impression qu'il y a vraiment des gens qui sont comme ce texte que je viens de lire. Mais il y en a encore qui sont quand même d'une très grande violence. Oui, oui. Et avec les enfants aussi, d'ailleurs.
Oui, oui. C'est absolument indiscutable. Mais ce dont il faut se réjouir, c'est que ce phénomène est en train de se résorber pour plusieurs raisons. Et la première, la principale, c'est la féminisation du monde du cheval. 80% des gens qui, aujourd'hui, en France, montent à cheval sont des femmes.
Très
ça change tout. Les garçons...
Et les monitrices aussi. Hein. Il y a beaucoup
les monitrices, les lades. Et même les lades, les soigneurs. Il y a une féminisation, non seulement des cavaliers, enfin de ceux qui utilisent le cheval, mais de ceux qui s'en occupent. Et ça change tout. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que une meilleure connaissance, disons, de l'éthologie, qui est une science récente. Le fait que, enfin, les maîtres d'équitation s'y intéressent, justement, étudient le comportement du cheval, prouve que on obtient, et c'est donc un simple problème d'efficacité, on obtient de meilleurs résultats avec le cheval en utilisant la patience, la douceur, l'entêtement, si c'est nécessaire, que la brutalité, la cravache, les coups de pied, les hurlements et toutes ces choses qui ne font qu'affoler le cheval et le renforcer dans sa... S'il est récalcitrant, s'il est rebelle, comme vient de le chanter le forestier, qui ne fait que renforcer sa rébellion.
Et d'ailleurs, dans ce domaine, quelqu'un comme Bartabas, quand on lui dit « Mais comment est-ce que vous avez réussi à faire danser tel vinaigre ou enfin l'un de ses chevaux célèbres ?» il explique toujours que le plus important, c'est le temps qu'il passe en silence à les regarder et il demande au cheval ce que le cheval lui a montré qu'il était prêt à faire. Et il essaye simplement de lui dire « Souviens-toi ce que tu m'as fait tel jour à telle heure ». Alors parfois ça peut prendre beaucoup de temps, mais c'est-à-dire qu'il ne va pas essayer de contraindre le cheval à faire ce que lui a décidé qu'il ferait. Et je trouve que dans le dernier spectacle, dans Triptyque, il y a vraiment une scène sublime de ce point de vue, c'est la deuxième partie du Sacre du Printemps, où il lâche trois poulains qui pendant 10 minutes font strictement, apparemment, ce qu'ils veulent, sans aucune coercition, d'aucune sortie. Ils sont libres dans l'espace, dans le cirque, enfin dans l'arène plutôt. Et il n'y a qu'à la fin où on voit en effet qu'ils ont suivi même la musique, puisqu'ils acceptent de faire et de finir le numéro pour lequel ils étaient entrés. Mais au début, il n'y a aucune contrainte de personne. Et c'est uniquement en les voyant auprès se batifoler de cette façon-là qu'il a eu envie de les mettre sur scène.
Ça, c'est magnifique, c'est presque de la magie, et puis c'est de l'amour. C'est l'amour au maximum, bien entendu. Un dernier mot, vous pensez que si vous réunissez, en effet, par vos différents moyens, une somme suffisante, ça pourra se refaire,
Mais il ne faut pas en parler au conditionnel, voilà, c'est fait, grâce à la générosité de cet éditeur qui a bien voulu consentir un avaloir important. Les travaux vont reprendre dès le dégel, et on pourra visiter et les écuries et le cimetière dès l'été prochain.
Je vous remercie, c'est ainsi que s'achève Un étrange pays. La prise de son est de Jean Frédéric, la réalisation de Daniel Fineau. Je rappelle le titre du livre dont nous avons parlé abondamment. Première rencontre, Le cheval et l'homme, 20 écrivains rêves, édition Phébus.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 février 2001.